بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 26 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 14 février 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture du livre de Cheikh Saleh Al-Fawzan, l'actuel mufti d'Arabie Saoudite, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, le grand savant salafi. Son livre qui s'appelle « Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat » donc des notices concernant des règles concernant les femmes croyantes. On s'est rendu au troisième chapitre de ce livre dans lequel l'auteur, rahimahullah, a détaillé des règles concernant la menstruation, les métrorragies et les lochies. Donc, avant de commencer notre lecture, comme vous savez, ce cours qui s'adresse principalement à des femmes croyantes, mais il est intéressant également pour les hommes. Les hommes qui s'apprêtent à se marier ou qui sont déjà mariés, car parmi les devoir du mari d'enseigner à son épouse les choses dont elle a besoin de sa religion et de l'aider dans ce sens-là, en lui facilitant l'accès aux cours et en l'aidant afin qu'elle apprenne les choses dont elle a besoin dans sa religion. Et dans la vie de couple, on est censé être dans une entraide entre nous, l'entraide entre l'époux et son épouse, afin d'arriver tous les deux à la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bases qui sont nécessaires, qui doivent être connues et respectées dans la vie de couple, afin de garantir le bonheur et l'épanouissement, l'amour dans nos couples, il y a quelques points, quelques bases importantes. Je vais en citer quelques-unes. La première de ces bases nécessaires et qui est la plus importante, c'est la piété. Taqwallah. Taqwallah, qui est de faire les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en espérant sa récompense, et de s'écarter de ses interdits, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par crainte de son châtiment. Et tout ça doit se faire avec science. Il n'y a pas de piété ni de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec la science. On doit d'abord savoir ce que Allah aime et ce que Allah a ordonné afin de le faire. Et de le faire sincèrement. Donc, la piété, c'est aussi la sincérité. C'est même le summum de la piété. Et ça, c'est un point extrêmement important dans la vie de couple. Pour la femme comme pour le mari. Pour l'homme comme pour la femme, c'est d'apprendre à agir dans notre vie de couple sincèrement pour Allah. La femme, si elle obéit à son mari, c'est pas parce qu'il est gentil, ou parce qu'il est généreux, ou parce qu'il la respecte, ou parce qu'il l'aime, ou parce qu'il lui fait beaucoup de cadeaux. La femme obéit à son mari tout d'abord et avant tout par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est uniquement cette femme qui obéit et qui fait tout ce qu'elle fait avec son mari sincèrement, qui va continuer à le faire et ne cessera jamais de le faire. Car la femme qui le fait pour le bon comportement du mari, il suffit qu'un jour qu'il se comporte mal avec elle pour qu'elle lui désobéisse. Ou s'il n'a plus les moyens pour être généreux, elle ne sera plus la même avec lui. Et ainsi de suite. Donc, pour l'homme, comme pour la femme, tout ce que nous faisons entre nous, parmi les choses qui contribuent dans notre amour et dans notre bonheur, on doit le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'une seule catégorie de gens qui continuent à faire le bien dans toutes les circonstances. Ce sont seulement les hommes sincères. « Ma kana lillahi dama wa tassal, wa ma kana li ghayri lillahi inqata'a wa infassal. » Ce qui est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, seulement, c'est ça qui va perdurer et continuer. Et tout le reste s'arrêtera et aura une fin, tôt ou tard. Et au plus tard, c'est à la fin de cette vie. Comme vous savez, les seules relations qui vont continuer dans l'au-delà, parmi les relations de ce bas monde, ce sont les relations qui ont été tissées pour Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première base et le point le plus important. Vous voyez que ça comporte à la fois la sincérité, la science, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, ou la deuxième base très importante, c'est de nous comporter entre nous, dans notre vie de couple, avec la bonté et la bienfaisance et la bienveillance. Et de ne pas rester seulement dans le cadre des droits et des obligations, et de l'équité et de la justice. Non, car l'homme équitable et la femme équitable et juste, ce sont ceux qui donnent, qui remplissent leurs obligations et qui exigent leurs droits entièrement. Et la vie de couple ne peut pas continuer dans ces circonstances d'une manière générale. Lakin, une vie de couple épanouie et heureuse, c'est une vie de couple où on se comporte entre nous avec la bonté et la bienfaisance et le mérite. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va donner plus que ses devoirs vis-à-vis de son conjoint et il n'exigera pas de lui la totalité de ses droits. Il donnera plus que l'obligation et il n'exigera pas l'intégralité de son droit. Il se contentera du peu. Et c'est comme ça les gens bons et nobles. Al-Kurama minan nas. Les gens nobles et bons dans l'âme, c'est cette catégorie de gens-là. Et ça, c'est un point également qui est d'une grande importance. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran, il dit « Wa la tansaw al-fadla baynakum » N'oubliez pas d'être bienfaisant ou afin d'être bienveillant les uns envers les autres. Également, une autre base, c'est l'endurance et la patience. De patienter. On a besoin de patience et d'endurance dans notre vie de couple. Parce que la vie de couple, ce n'est pas tous les jours comme on le souhaite. La femme peut passer par des périodes de troubles hormonaux. Le mari peut pas passer par des périodes où il rencontre des difficultés à l'extérieur, dans son travail, dans ses relations avec l'extérieur et ainsi de suite. Donc, nous avons forcément besoin pour maintenir notre vie de couple, nous avons besoin de patience et d'endurance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle clairement dans le Coran. Il nous dit فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Peut-être que vous allez avoir de l'aversion pour une chose alors que Allah subhanahu wa ta'ala fera en elle une cause d'un grand bien. Donc, la patience est importante dans la vie de couple. Également, le comportement convenable est une chose exigée entre les époux. Que ce soit le comportement convenable, yani avec nos propos, avec les paroles qu'on échange entre nous, avec nos actes, la bonne compagnie et le bon comportement d'une manière générale est exigé dans la vie de couple. Et le bon comportement, à la tête du bon comportement pour l'épouse, c'est le respect de son mari. L'épouse intelligente doit savoir que le jour où elle commence à manquer de respect à son mari, c'est le début de la fin de sa relation avec lui. Car ça, c'est parmi les lignes rouges chez les hommes d'une manière générale, quand leurs femmes, leurs épouses, leur manquent de respect. Donc ça, c'est très important pour l'épouse de toujours garder le respect pour son mari et de ne jamais arriver à des bassesses comme les insultes ou l'insulter par des choses passées ou dernier quelque chose de ce genre-là. Et de même pour le mari. Le mari doit toujours également garder ce respect pour son épouse. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » « Comportez-vous convenablement envers vos épouses. » Et parmi les bases également qui sont très importantes et en général qui sont préconisées dans le cas de disputes et de conflits entre les époux, car on ne s'imagine pas une vie de couple dans laquelle il n'y a pas de dispute, ni de conflit, ni de désaccord. Et ça, c'est très important, ça me rappelle un autre point, d'être réaliste et de ne pas idéaliser le mariage. Car, ni surtout les sœurs qui sont jeunes, qui n'ont jamais été mariées, en général, quand elles s'apprêtent à se marier, elles croient qu'elles vont se marier avec un homme salafi, alhamdoulilah, les salafiyas, donc elles vont vivre comme Abu Bakr Siddiq avec son épouse ou comme Ali radiallahu anhu avec son épouse Fatima radiallahu anhu. Idéaliser le mariage fait partie des causes de divorce. Il faut plutôt être réaliste. Il faut être réaliste et savoir que dans une vie de couple, forcément, il y a des points de désaccord. Vous imaginez un homme qui vient d'une culture peut-être différente, d'un environnement différent. Et déjà, c'est un homme. Il est déjà différent de par sa nature sur laquelle Allah l'a créé. Il est différent de la femme. Certes, ils ont des points en commun, mais ils ont beaucoup de points de différence. Et donc, avec chacun, il vient avec ses différences et ils vont commencer à vivre ensemble. Donc, bien évidemment, la première année en général, c'est une année difficile. C'est une année de test. Après les premières semaines, l'année, ce que certains appellent la lune du miel ou la shihaja comme ça, en tout cas, après cette première période où il va y avoir l'année, les relations intimes qui ne laissent pas apparaître ces différences et ces points de désaccord, là après cela, il y aura cette période. Donc, il faut qu'on sache que dans le cas des désaccords, nous devons avoir recours à la réconciliation et à trouver des compromis. Et il faut que l'homme comme la femme, faut qu'il sache que le fait de céder sur certains de ses droits, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Et d'accepter la réconciliation en cédant sur certains de ses droits, ça c'est parmi les forces de l'homme comme pour la femme. Et à ce principe, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. La réconciliation est toujours meilleure. Avant de commencer à lire, il y a un point que j'aimerais rappeler également, comme on a parlé de plusieurs causes qui favorisent l'amour entre les époux et la vie heureuse dans le couple, également parmi les plus grandes causes des problèmes dans le couple. Parmi les plus grandes causes des problèmes dans le couple, c'est que lors des conflits, chacun des époux commence à adresser des accusations pour l'autre. Par exemple, la femme en général, ou l'homme, qui va commencer à chercher qui est fautif dans ce problème. Qui est fautif? Et ça, c'est un mauvais départ déjà. Yani, on commence à chercher qui est le fautif. Et du coup, la femme, elle commence à adresser des accusations à son mari, et son mari, instinctivement, il commence à se défendre et à lui adresser des accusations à son tour. Et c'est pour ça qu'on n'arrive jamais à trouver de solution à ce genre de problème. Lakin, l'attitude juste, c'est de ne pas chercher qui était le fautif. Car on est ensemble, en forme, comme une seule entité. Et on est censé nous entraider dans ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et préserver notre couple. La femme, comme l'homme, avant de se marier, il faut qu'elle ouvre grand ses yeux et qu'elle soit minutieuse et qu'elle cherche et qu'elle mène toutes les enquêtes possibles et imaginables pour elle pour connaître cet homme avant de l'épouser. Lakin, une fois qu'elle l'épouse, une fois qu'elle donne son accord, elle rentre sous son autorité. Il faut que la femme sache cela. Et de même pour le mari. Qu'il soit regardant, très très regardant, avant le mariage. Mais une fois qu'il épouse cette sœur, il faut qu'il ferme les yeux sur beaucoup de choses. Nous, en général, on fait l'inverse. Moi, ce que j'apprends des gens, en général, c'est la démarche inverse. La sœur, elle fait aucun effort d'enquête sur le frère, et pire encore, elle fait preuve de naïveté. Elle se contente de ce que cet homme, ce prétendant, lui dit. Et ça, c'est le summum de la naïveté. Un homme, il faut savoir, quand il veut épouser une femme, il est prêt à lui dire ce qu'elle veut entendre. Donc, ce n'est pas de cet homme que nous allons prendre les informations. Il faut chercher à se renseigner dans ses relations, ses fréquentations, ses amis, son quartier, et de même pour la femme. Donc, on ouvre grand les yeux avant le mariage et on les ferme au maximum après le mariage. Donc, j'ai dit, on commence à chercher le fautif quand il y a des problèmes dans le couple. Alors que l'attitude juste, c'est de chercher qui est blâmable dans ce problème. Et il y a une différence entre les deux. Chercher le fautif, ça ne mène à rien en général. Et ça ne fait qu'empirer les choses. Par contre, on cherche qui est blâmable dans ce problème. Et le plus souvent, celui qui est blâmable, bien évidemment, à chaque fois que vous avez un conflit entre deux personnes, si vous trouvez une personne adulte qui se bagarre avec un enfant de 7 ans ou là de 8 ans, est-ce que vous allez blâmer l'enfant? Vous allez toujours blâmer l'homme adulte. C'est pour ça, le plus souvent, celui qui est blâmé dans les problèmes de couple, c'est le mari. Le mari, et les causes peuvent être multiples. Car le mari peut ne pas connaître la nature de la femme, peut ignorer la nature de la femme. Et du coup, il la juge comme il juge un frère ou un homme. Lakin, en général, quand il y a un problème dans le couple, celui qui doit faire preuve de patience et de plus de sagesse, c'est l'homme. C'est pour ça que Allah a fait que le divorce soit entre les mains de l'homme et non pas entre les mains de la femme. La femme, elle a ses qualités, elle a ses points forts. Lakin, la femme, le plus souvent, agit sous l'effet de ses sentiments. La femme, si elle se met en colère, si le divorce était entre ses mains, elle divorcerait peut-être instantanément son mari. Lakin, le mari, normalement, il n'est pas censé agir comme une femme dans ces situations-là. Au contraire, il doit faire preuve de patience et et de se laisser le temps de réflexion, et ainsi de suite. Taïf. Donc, Cheikh Hafidhahullah, ensuite, il a dit, awwalan, al-haydu wa ahkamuhu. Al-haydu wa ahkamuhu. Il a dit, al-haydu fi l-lughati huwa al-sayalan. Donc, al-hayd, c'est quoi? Les menstrues, ou la menstruation, ou les règles, c'est quoi leur définition linguistiquement parlant? Il a dit, al-hayd, linguistiquement parlant, c'est l'écoulement. C'est l'écoulement. والحيض شرعا دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة. Et religieusement parlant, al-hayd c'est quoi? C'est du sang qui sort du fond de l'utérus de la femme à des périodes bien déterminées, sans qu'elle soit malade ni blessée. C'est pas un sang qui sort suite à une blessure, à une plaie, ni à une maladie. Donc il sort en état normal de la femme, dans des périodes bien déterminées, et il sort du fond de l'utérus, contrairement aux métrorragies, qui ne sortent pas du fond de l'utérus, mais ils sortent, yani, du début de l'utérus. Et en plus, c'est lié à une blessure, comme c'est rapporté dans le hadith. طيب. Ensuite, il a dit, وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنَاتِ آدَمَ. Et al-hayd, ce n'est pas suite à une maladie ni une blessure, mais c'est quelque chose, yani, qui est dans la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les filles de Adam, yani la femme. خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل. Allah subhanahu wa ta'ala crée ce sang dans l'utérus de la femme pour nourrir le fœtus, Et ça, c'est pendant la période de grossesse. ثم يتحول لبنا بعد ولادته. Et suite à l'accouchement, ce sang se transforme en du lait pour nourrir ce bébé. فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا بقي هذا الدم لا مصرف له. Et si la femme, elle ne tombe pas enceinte et elle n'allait pas non plus, ce sang reste dans l'utérus et il ne trouve pas de moyen d'évacuation. Il reste dans l'utérus de la femme. Fayakhrujo, donc comment il va s'écouler, comment il va s'évacuer? Il a dit Fayakhrujo fi awqatin ma'louma. تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية. Donc il va sortir à des périodes bien déterminées et c'est ce qu'on appelle les règles ou la menstruation. Ensuite, il a parlé donc damul hayd, c'est très important de connaître sa description. La description, Cher ne l'a pas cité, la description du sang des menstrues, c'est un sang épais. Ça, c'est le premier point. Il est épais. Afin de le distinguer du sang naturel, normal qu'on a dans le corps, qui est un sang rouge, qui est un sang léger. Donc, le sang des menstrues, c'est un sang épais. Et le plus souvent, il comporte des grumeaux, des choses comme ça. Muntinun karihur ra'iha. Au niveau de la couleur, le sang des menstrues, c'est un sang marron foncé, contrairement au sang habituel que nous avons dans le corps, qui est plutôt rougeâtre. Et aussi une autre distinction au niveau de l'odeur. Il a une mauvaise odeur, il dégage une mauvaise odeur, contrairement au sang qu'on a dans le corps. Donc ça, c'est parmi les points qui permettent de distinguer le sang des menstrues. Et nous allons voir que ça, c'est quelque chose de très important pour la femme, d'arriver à distinguer le sang des menstrues des autres sangs. Donc, par sa texture, par sa couleur, par son odeur. Ensuite, Cheikh Hafidhahullah dit, « As-sinnu allati tahidu fihi al-mar'atu ghaliban aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'a tis'u sinin ila khamsina sana. » Donc, au niveau de l'âge à partir duquel c'est possible que la femme puisse avoir ses menstrues. C'est-à-dire, si jamais il y a du sang qui sort de l'utérus de la femme avant cet âge-là, ça ne sera pas considéré comme un sang de menstruation. Donc, l'âge minimum à partir duquel la femme peut commencer à avoir du sang de menstrues, c'est 9 ans. C'est 9 ans. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Ils disent que c'est pas possible que la femme commence à avoir des menstrues et par conséquence devenir pubère avant 9 ans. Ça, c'est l'avis de l'Hanafiya, de Shafi'iya et de l'Hanabila. Et l'âge maximum auquel la femme continue à avoir des menstrues, c'est-à-dire les menstrues, peuvent s'arrêter avant. Et la femme est ménopausée avant. Ça peut arriver. Lakin, l'âge maximum, c'est 50 ans. 50 ans. Et ça, c'est l'avis de l'Hanabila et de Shafi'iya. L'Hanafiya, il dit 55 ans. Et c'est rapporté de l'imam Ahmad qu'il a dit 60 ans. Et beaucoup de Maliki disent après 70 ans. C'est-à-dire, yani, si la femme a des menstrues après 70 ans, ils disent ça, c'est pas des sangs de menstrues. Si elle a du sang qui sort, ça ne sera pas considéré comme des menstruations. Lakin, Wallahu A'lam, c'est qu'il n'y a pas d'âge. La femme peut continuer à avoir des menstruations même après 70 ans, selon les cas. Et ils peuvent s'arrêter même à 40 ans, 35 ans, surtout à cette époque où la femme a été introduite dans le milieu du travail des hommes et elle subit une grande pression. Il est constaté que les femmes deviennent ménopausées beaucoup plus tôt à notre époque qu'avant. Donc ça, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Taymiyyah. Il n'y a pas d'âge maximum. Donc la femme peut commencer à avoir des menstruations à partir de 9 ans et ça peut continuer jusqu'à son décès. Le jour où ça s'arrête, c'est là où nous saurons que la femme est ménopausée. Tayyib. Comme Allah Azza wa Jalla dit, ensuite Cheikh a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. Ça, c'est pour la période de viduité de la femme divorcée qui est ménopausée, ou qui est jeune, qui n'a pas encore commencé à avoir ses menstruations. Yani, quelqu'un peut se poser la question, comment ça, une femme, avant d'avoir les menstrues, avant d'être pubère, elle peut être mariée? Naam, elle peut être mariée, mais elle reste avec ses parents. Yani, il y a des hommes qui veulent s'assurer, il y a un mari qui connaît une famille pieuse, il veut s'assurer d'épouser leur fille plus tard. et de l'avoir comme épouse. Il peut l'épouser avant, mais à condition qu'elle ne sera remise à son mari qu'une fois pubère et qu'elle devient capable d'assumer le mariage. Ça peut être à 15 ans, ça peut être à 18 ans, ça peut être à 30 ans. Et à notre époque, cet âge a été reculé, comme vous le savez. Et ça, c'est dépendant de la nature de la femme, de ses capacités à assumer un mariage, bien évidemment, après la puberté. Ce n'est pas autorisé avant la puberté. Lakin, après la puberté, ce n'est pas parce qu'elle est devenue pubère qu'elle est devenue capable d'assumer le mariage, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et ainsi de suite. Taïb. Leur délai est de 3 mois, de même que celles qui n'ont pas encore de règles. C'est ce qu'on appelle le Mubtada'a. Le Mubtada'a, c'est la femme qui n'a pas encore commencé à avoir des règles et qui les a pour la première fois. Ça s'appelle une femme Mubtada'a. Quand elle a une habitude, on l'appelle Mu'tada. Et quand les menstrues s'arrêtent, on l'appelle Aïssa, ménopausée. Donc, chérie dit, Falla iya isna man balagna 50 sana. Il y a une celle qui n'espère plus avoir de règles, ce sont les femmes qui ont atteint 50 ans, selon l'avis que Cheikh a choisi. L'avis de Al-Madhab al-Hambali. Et celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, ce sont les femmes et les jeunes filles qui n'ont pas encore 9 ans. Qui n'ont pas encore 9 ans. Taïm. Ensuite, il a dit Ahkam al-Ha'id. Donc là, il va citer plusieurs règles qui concernent la femme et qui concernent les règles qui concernent la menstruation de la femme. Taïb. Il a dit Yahrumu fi hal al-haydi wat'uha fi al-farji li qawlihi ta'ala wa yas'alunaka 'an al-mahid qul huwa adham fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dans le sens approximatif, donc d'abord, le premier jugement qui concerne la femme indisposée, la femme ayant ses règles, tout d'abord, c'est l'interdiction d'avoir une relation, d'avoir une pénétration, une relation sexuelle avec la femme pendant qu'elle est indisposée. Il y a une relation dans laquelle il y a pénétration. Bien évidemment, quand les hommes de science disent l'interdiction de la pénétration, c'est la pénétration dans le vagin. La relation par voie anale, elle est strictement interdite dans tous les cas. Et à ce sujet, depuis longtemps, subhanallah, j'ai l'intention de faire une conférence ou là une sorte de rappel à ce sujet, car j'ai constaté qu'il y a plusieurs femmes qui ignorent l'interdiction de la relation par voie anale. Et elles faiblissent à la demande du mari qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui est à son tour ignorant de ce jugement. Et qui laisse ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé spécialement pour cette raison, et il va là où il y a les excréments et la saleté. Le shaitan, il fait aimer. Quand on réfléchit comme ça, c'est pas possible d'avoir une attirance pour cette chose-là. C'est pas possible d'avoir une envie pour cette chose-là. Lakin subhanallah, shaitan embellit ce qui est mauvais. Est-ce qu'il est sale? Est-ce qu'il est répugnant? Et ceci en délaissant ce qui est pur et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Donc ça, c'est le premier jugement. L'interdiction d'avoir une pénétration lors des règles. Comme Allah Azza wa Jalla dit, yas'alunaka 'anil mahid, dans le sens approximatif, il t'interroge au sujet de la menstruation des femmes, dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées alors, cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime tout ce qui se repente, il aime ceux qui se purifient. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interdit à l'homme d'avoir une pénétration avec son épouse indisposée. Lakin, il lui a pas interdit de dormir avec elle sur le même lit et, comme on va voir, yani de jouir d'elle autrement, en dehors de la pénétration. Cheikh a dit, cette interdiction continue jusqu'à l'arrêt de la menstruation et jusqu'à ce que la femme fasse un bain rituel, jusqu'à ce que la femme fasse le ghusl. Donc cette interdiction, elle continue jusqu'à l'arrêt du sang. Et on va voir les signes de l'arrêt du sang. Nous avons deux signes. Le premier signe, c'est les sécrétions blanchâtres, ce qu'on appelle le qassa al-bayda. Et le deuxième signe, c'est l'assèchement de la vulve. Quand il y a un de ces deux signes, c'est que le sang s'est arrêté, mais il n'est toujours pas autorisé à l'homme d'avoir une relation intime avec son épouse, d'avoir une pénétration. Il faut attendre qu'elle fasse son ghusl. Suite à cela, ça devient autorisé. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ça fait prolonger la période de viduité. Et un homme qui a divorcé sa femme, et qui peut la reprendre durant la période de viduité, ce droit continue jusqu'à ce qu'elle se lave. Il continue même après l'arrêt du sang jusqu'à ce qu'elle se lave. C'est là où le divorce devient effectif et définitif. Et s'il peut la reprendre par la suite, il doit la reprendre avec un nouvel acte de mariage, de témoin, l'accord de son tuteur et une dot. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a dit, ne les approchez que quand elles sont pures, quand elles deviennent pures, quand elles se sont purifiées, alors cohabiter, yani cohabiter dans le sens d'avoir des relations intimes, cohabiter avec elles, suivant les prescriptions d'Allah. Cheikh a dit, « وَيُبَاحُ لِزَوْجِ الْحَائِدِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا بِمَا دُونَ الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ. » Donc, il dit qu'il est autorisé pour le mari de la femme ayant ses menstrues, il est autorisé pour lui de jouir d'elle sans arriver jusqu'au rapport sexuel, conformément à la parole du prophète, dans laquelle il dit « Faites tout sauf le rapport sexuel. Faites tout sauf le rapport sexuel. » Le deuxième jugement qui a été mentionné par Cheikh ici, c'est l'interdiction du jeûne et de la salade pour la femme indisposée, l'interdiction qu'elle fasse la salade et qu'elle jeûne. Il est interdit pour elle de jeûner et de faire la salade pendant qu'elle est indisposée. Et si jamais elle les fait, par ignorance, ils ne seront pas valides. Comme le Nabi a dit, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum muttafaqun alayh. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la femme, il a dit, n'est-ce pas quand la femme est indisposée, n'est-ce pas qu'elle ne fait pas la salat et qu'elle ne jeûne pas? Yani, la réponse, oui. فَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِدِ فَإِنَّهَا تَقْدِ الصَّوْمَ وَلَا تَقْدِ الصَّلَاتِ. Et quand la femme se purifie suite à ses menstrues, alors elle rattrape le jeûne et elle ne rattrape pas la salat. Comme a dit notre mère Aïcha, elle a dit كُنَّا نَحِيدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Comme notre mère Aïcha radiallahu anha a dit qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les femmes étant disposées après la purification, après leur purification ou après leur pureté, le prophète alayhi salam leur ordonnait. Elle a dit, on nous ordonnait. C'est-à-dire le prophète alayhi salam leur donnait l'ordre de rattraper le jeûne, il ne leur ordonnait pas de rattraper la salat. Rapporté dans les deux authentiques. Et Cheikh a cité la sagesse. Pourquoi elle rattrapait le jeûne et elle ne rattrapait pas la salat? Il a dit, وَالْفَرْقُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ. Et la différence entre les deux, et Allah sait mieux, c'est que الصَّلَاتُ تَتَكَرَّرُ فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا. La salat se répète 5 fois par jour. Et donc, si la femme est indisposée pendant 8 jours, ça lui fait 5 jours de salat, 8 jours de salat multipliés par 5, ça fait 40 salats à rattraper. C'est un grand nombre. Lil haraji wal mashaqqati fi dhalik. Car ceci comporte une gêne, une lourdeur pour la femme. Contrairement au jeûne, la femme, quand elle est indisposée pendant 7 jours ou 8 jours, elle n'aura que 7 ou 8 jours à rattraper de jeûne. Et elle peut les rattraper quand elle peut, même d'une manière répartie. Et la règle que nous avons dans le fiqh dit, parmi les 5 grandes règles de le fiqh, Al-mashaqqatu tajlubu taysir. La difficulté amène la facilité. Le jugement suivant que Cheikh a cité, l'interdiction pour la femme indisposée de toucher al-mushaf, de toucher al-mushaf sans al-ha'il, min ghayri ha'il. Al-ha'il, yani sans intermédiaire. Yani, il est interdit à la femme indisposée de toucher directement al-mushaf, al-Qur'an. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Que seuls les purifiés le touchent. Lakin, comme vous savez, l'argumentaire de Cheikh Al-Albani et même les imams de tafsir, il n'y a pas en réalité un dalil dans ce verset sur l'interdiction que la femme indisposée touche al-mushaf. Car ce qui est visé par le Coran ici, c'est le Coran dans le Lawh al-Mahfoud, et non pas le Coran que nous avons aujourd'hui entre les mains. Donc ce Coran qui est dans le Lawh al-Mahfoud, qui est dans les tablettes bien gardées, il n'est touché que par les purifiés, qui sont les anges. Et si c'était les hommes, Allah aurait dit, par ceux qui se purifient, car ceux qui sont purifiés de par leur nature et leur création, ce sont les anges. Mais l'homme, il se purifie. Donc en réalité, il n'y a pas de preuve dans ce verset. Et ensuite, Cheikh Hafidhahullah a cité le livre de Amr ibn Hazm, dans lequel le prophète a adressé ce message, dans lequel il a dit « La yamassu al-Qur'ana illa tahir » qui ne doit toucher le Qur'an qu'une personne purifiée. Qu'une personne purifiée. Il a dit, وَهُوَ يُشْبِهُ الْمُتَوَاتِرُ. Il a dit que ce hadith arrive presque, C'est pas un hadith mutawatir, mais presque il arrive à un hadith mutawatir. Comme a dit l'imam Ibn Abd al-Barr, il a dit ce livre est très connu et son contenu est également très connu, très célèbre, et il n'a pas besoin de chaîne de transmission tellement il est connu. Donc, il faut savoir que certains hommes de science ne sont pas d'accord avec ça. Ils voient que ce hadith fait partie de l'mursal, donc il est faible. Et tout ce que contient ce livre, ils voient qu'il est faible. Lakin, même en supposant que c'est authentique, donc même en considérant que c'est authentique, comme a dit Cheikh Al-Albani, en réalité ce hadith n'indique pas que la purification qui est demandée aussi, qui est demandée ici dans ce hadith, c'est la purification des menstrues et de l'état de grande impureté, ou là de petite impureté. Car la pureté ici peut très bien désigner la pureté du cœur. Donc, le hadith, on comprendra de ce hadith que ne doit toucher le Coran qu'un croyant. Et ça, c'est utilisé dans le Coran. Le mécréant est impur et le croyant est pur. C'est pas une pureté, c'est pas l'impureté du mécréant, c'est pas une impureté physique, c'est une impureté morale. Sa mécréance, c'est une impureté dans son cœur. Donc ça peut très bien désigner cette impureté. Et même, c'est la première chose qu'on comprend ici. Et ça peut également être l'impureté du corps. L'impureté du corps. Celui qui a une impureté sur le corps ne doit pas toucher le Coran. Et on peut comprendre aussi l'impureté de l'état de petite et grande impureté. Yani, qui nécessite les ablutions et les grandes ablutions. Donc, yani, y a aussi ce point. Et ensuite, Cheikh a rapporté la parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah, dans laquelle il dit que l'avis des quatre imams, des quatre écoles de jurisprudence, c'est qu'il n'est pas autorisé de toucher le Coran, sauf pour une personne purifiée. Celui qui n'est pas purifié, il n'a pas le droit de toucher le Coran. Et ça, effectivement, c'est l'avis des quatre imams. L'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Et c'est aussi l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah, et c'est l'avis de la plupart des savants. De toucher le mushaf directement. Cheikh l'Islam autorise de le toucher par un intermédiaire. Et ça fait sortir la femme de la divergence d'avoir une couverture pour son mushaf qu'elle utilise. Ou pendant qu'elle est indisposée, même si je préfère pour elle qu'elle utilise un Coran et qu'elle n'ait pas recours à lire le Coran dans un smartphone ou là dans un téléphone, que dans des cas limités. Et le plus souvent, elle s'habitue à avoir son mushaf avec elle, elle lit de le mushaf. Lakin, pendant qu'elle est indisposée, elle met une couverture sur son mushaf. Et c'est bien d'avoir cette couverture tout le temps. Et ça, c'est une précaution qui l'a fait sortir de cette divergence, alhamdoulilah. Sinon, elle lit sur un téléphone. Et aussi, le point de la lecture du Coran pour la femme indisposée, c'est aussi une question de divergence. C'est ce que Cheikh a mentionné par la suite. Il a dit « وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْحَائِدِ لِلْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ مَسِّ الْمُصْحَفْ فَهِيَ مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ » Donc Cheikh, comme s'il voit que de toucher le mushaf directement, cette interdiction est presque à l'unanimité des savants. Presque une unanimité. Ce n'est pas un consensus. Et même, l'avis le plus fort, Wallahu alam, peut-être que c'est autorisé, là qu'il la précaution, c'est de ne pas le toucher directement. C'est de ne pas le toucher directement. L'avis de l'autorisation, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, parmi les contemporains et d'autres parmi les salafs. Là qu'il la précaution pour la femme, c'est d'avoir toujours une couverture de son mushaf et de ne pas le toucher directement pendant qu'elle est indisposée. Maintenant, est-ce qu'elle peut le lire ou pas? Il a dit, c'est une question de divergence entre les hommes de science et la précaution, c'est qu'elle ne le lise pas que dans le cadre de la nécessité. Par exemple, si elle craint de l'oublier. Wallahu a'lam. Donc la femme, selon Cheikh Hafidhahullah, c'est que ce n'est pas autorisé pour elle de lire le Coran pendant qu'elle est indisposée. Et elle le lit seulement si elle craint, si c'est une enseignante dans une halaqa, ou là, elle révise, ou là, elle a peur d'oublier le Coran. Là, le Coran, si tu ne le lis pas pendant 7 jours, il y a des risques que tu l'oublies. Donc ça, c'est l'avis de Cheikh. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il voit que c'est autorisé et que c'est l'avis le plus juste. C'est autorisé pour la femme indisposée, que ce soit la femme ayant ses menstrues ou la femme ayant des lochies, il est autorisé pour elle de lire le Coran. Il dit que ça, c'est l'avis le plus juste parmi les avis des hommes de science, car il n'y a aucune preuve authentique qui indique l'interdiction de lire le Coran pour la femme ayant ses menstrues et ses lochies. Et notez bien que Cheikh, il dit que ce n'est pas autorisé pour la femme qui ayant le janaba, l'homme ou la femme qui sont en état de grande impureté suite à une relation sexuelle, ils disent que ceux-là, non, ils n'ont pas le droit de lire le Coran, ni de toucher le mushaf. Et il y a une différence entre les deux. Comme bien même les deux sont des états de grande impureté. Lakin, la sagesse que les hommes de science mentionnent, c'est que l'homme qui est en état de grande impureté comme la femme suite à une relation sexuelle, cet état peut être levé avec un bain rituel. Et ça, il peut le faire. Contrairement à la femme indisposée à cause de ses menstrues ou ses lochies, c'est pas quelque chose qu'elle contrôle. D'où la différence dans le jugement. Le point suivant, il est interdit également pour la femme indisposée de faire at-tawaf. Il est interdit pour la femme indisposée de faire tawaf autour de la Kaaba. Comme le prophète alayhi salam a dit à notre mère Aïcha, quand elle était indisposée, il lui a dit « If'ali ma yaf'alu al-hajj, ghayra alla tatoufi bil-bayti hatta tatouri » Donc comme le prophète alayhi salam a dit à notre mère Aïcha, il lui a dit « Fais comme fait le pèlerin, à l'exception de tawaf, ne le fais pas jusqu'à te purifier. » Jusqu'à te purifier. Donc, vous voyez bien, ça c'est un texte explicite. Il est interdit pour la femme de faire tawaf pendant qu'elle est indisposée. Et malgré cela, comme vous savez, la femme comme l'homme, pendant l'accomplissement de leur pèlerinage, tous on sait qu'ils invoquent Allah et qu'ils l'évoquent et qu'ils lisent le Coran. Donc ça c'est parmi les arguments que c'est autorisé pour la femme de lire le Coran pendant qu'elle est indisposée. Et ça c'est l'avis de Malikiya et de Zahiriya. Et c'est rapporté de l'imam Shafi'i et aussi de l'imam Ahmad. Et c'est l'avis qui a été choisi par l'imam Tabari et l'imam Ibn Taymiyyah et l'imam Ibn Al-Qayyim et Cheikh Ibn Uthaymin. Et c'est le fatwa de l'Ajnad Da'ima. C'est autorisé pour la femme ayant ses menstrues de lire le Coran. Le point suivant. Donc on va citer le point suivant comme il est en lien, directement lié à ce point-là. Il a dit يحرم على الحائض اللبث في المسجد. يحرم على الحائض اللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. Donc, il est également interdit à la femme indisposée, la femme ayant ses menstrues, il est interdit pour elle de rester dans la mosquée. Car le prophète عليه السلام a dit إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. Je n'autorise pas à la femme ayant ses menstrues ni pour l'homme en état de grande impureté, ou là, la femme ayant le janaba, je ne leur autorise pas de rester dans la mosquée. Je ne leur autorise pas de rester dans la mosquée. Et aussi dans l'autre hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-masjida la yahillu li junubin wa la ha'id » La mosquée n'est pas autorisée pour la femme ayant ses menstrues, ni pour la personne qui est en état de grande impureté suite à des relations sexuelles ou là une éjaculation. Et il y a le janaba. Je ne sais pas comment traduire le janaba, mais vous avez compris, inshallah ta'ala. طيب لكن سي احاديث que Cheikh a cité ici يعني si ces احاديث étaient authentiques pour tous il n'y aurait pas eu de divergence à ce sujet car le premier hadith que Cheikh a mentionné a été jugé faible par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil et dans d'autres de ses ouvrages dans d'autres de ses ouvrages. Lakin, malgré cela, il y a des textes qui sont authentiques, qui ont été rapportés à ce sujet, et qui permettent de dire que la vie juste, c'est que ce n'est pas autorisé pour la femme de rester. Et notez bien que ce que les savants mentionnent ici, c'est le fait de rester. Et on va parler de son passage et de traverser la mosquée. Ça, c'est un jugement différent. La clinicienne, on parle de rester, de venir et de s'asseoir et de rester dans la mosquée pendant qu'elle est ses menstrues. Donc, le hadith qui est authentique, qui est rapporté à ce sujet, c'est un hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam muslim. Hadith Ummu Atiyya radiyallahu anha. Elle a dit « Omerna » أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخذور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. Donc Ummu Atiyya رضي الله عنها dit, on nous a ordonné, c'est-à-dire le prophète عليه الصلاة والسلام leur a ordonné de sortir pour les salats de l'Eid. Et des savants ont tiré de ça l'obligation, que c'est une obligation pour tout le monde de sortir pour salat l'Eid. يعني que ce soit ni les hommes, bien évidemment, et aussi les femmes. Car dans ce hadith, Al-Nabi a ordonné de sortir même les jeunes filles et même les femmes indisposées, ayant leurs règles. Lakin, il a dit, à condition de se mettre à l'écart de l'endroit où les muslimines accomplissent la salat. Donc ça, c'est un hadith explicite à ce sujet, wallahu alam. C'est que ce n'est pas autorisé pour la femme indisposée de rester dans la mosquée. Aussi Allah Azza wa Jalla dit « Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu » Donc, il y a certains savants qui se sont appuyés sur ce hadith, sur ce verset, pour, yani, appuie encore ce jugement de l'interdiction pour la femme de rester dans la mosquée pendant qu'elle est indisposée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ce verset, il dit « Ô vous qui avez cru, n'approchez point la salat alors que vous êtes ivre, et cela jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, et non plus quand vous êtes en état de souillure. » Voilà, junuban, en état de souillure, à moins que vous ne soyez de passage. Donc, l'imam Ibn Jarir Tabari a rapporté les deux avis concernant ce verset. Il y a des savants qui ont dit que ce verset concerne le voyageur. Quand il est touché par un état de grande impureté, il n'a pas le droit, et il peut faire quand même la salat en faisant les ablutions sèches, atiyamum. Et d'autres ont dit que ce verset concerne yani, le fait de, comme yani, j'ai lu dans la traduction, de s'approcher de de l'endroit de l'adoration, de la salat, yani les mosquées. Il est interdit de s'approcher et d'entrer et de rester dans les endroits de la salat seulement si vous êtes de passage. Yani si vous traversez, là vous passez par la mosquée, c'est autorisé. Lakin, y rester, c'est interdit. Donc vous voyez que l'imam Nujarir Tabari a rapporté deux compréhensions de salaf concernant ce verset. Et il y a une compréhension qui appuie l'interdiction pour la personne indisposée, pour la femme indisposée, de rester dans la mosquée. Et ensuite, Cheikh a dit, donc maintenant, interdiction qu'elle reste dans la mosquée. Lakin, quel est le jugement de son passage et de traverser la mosquée, si elle a besoin de la traverser, pour une raison ou pour une autre. Il a dit, il est autorisé pour elle de traverser, ou la d'être de traverser la mosquée sans y rester. Comme ça a été rapporté de Aïcha radiallahu anha, elle a dit, « Qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il lui a dit, « Nawilini al-khumrata min al-masjid » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Apporte-moi le tapis se trouvant à la mosquée. » « Qalat faqultu inni ha'id » Aïcha radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis indisposé. » Yani, dans le sens, je ne peux pas entrer dans la mosquée. Je suis indisposé. Le prophète alayhi sallam lui a dit, « Inna haydataki laysat fi yadiki. » Il lui a dit, « Tes menstrues, il lui a dit, tes menstrues, ou là, ta menstruation n'est pas dans ta main. N'est pas dans ta main. » Ça veut dire, c'est autorisé pour la femme indisposée d'entrer dans la mosquée et de la traverser et ainsi de suite. Lakin, elle ne reste pas dans la mosquée. ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير والتسبيح والأدعية وأن تأتي بالأوراد الشرعية المشروعة في الصباح والمساء. Il est autorisé également, Cheikh poursuit en disant, il est autorisé également pour la femme ayant ses menstrues de faire ces invocations, légiférées, comme tahlil, de dire la ilaha illallah, et at-takbir, de dire Allahu Akbar, at-tasbih, de dire subhanallah, et les autres invocations et évocations, et de faire les invocations du matin et du soir, et les invocations avant de dormir et au réveil. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle lise dans les livres de la science, comme les livres de tafsir, et les livres de l'hadith, et les livres de l'fiqh, de la jurisprudence. Et aussi, inshallah, il n'y a pas de mal à ce qu'elle lise le Coran. Au contraire, c'est un bien. Donc, nous allons nous arrêter ici, inshallah, ta'ala, et nous continuerons dans notre prochaine rencontre avec ces règles qui restent concernant yani, la menstruation et les logis des femmes et les métrages. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.